Ésaïe chapitre 50, verset 10. Qui d'entre vous craint l'Éternel, qui écoute la voix de son serviteur, que celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière se confie au nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs. L'étude que l'on a eue la semaine dernière, sabbat dernier, était assez prenante, si ce n'est pour vous, au moins pour moi, parce que ce que cela implique d'avoir une réalisation de la croix dans notre vie personnelle, de manière tangible et réelle, eh bien, c'est bien plus que tout ce que les théories et l'apprentissage des doctrines peut opérer et créer dans nos cœurs. Et donc pour moi, ce fut et ça a été et c'est encore une réalisation prenante et puisse le Seigneur, par son Saint-Esprit, continuer d'opérer dans nos cœurs aujourd'hui, notamment à travers cette méditation que je vous propose aujourd'hui et qui fait directement suite à ce que nous avions contemplé la semaine dernière, vis-à-vis de cette réalisation que nous faisons en tant que disciples du Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes déterminés et que nous choisissons délibérément de marcher dans les pas de ceux qui ont servi le Seigneur, de ses premiers disciples. Parce que nous aussi, si nous suivons cette trajectoire sur laquelle ils se sont lancés en livrant leur vie, en donnant leur vie à Jésus, en acceptant de devenir ses disciples, ses apôtres. Nous, si nous suivons cette trajectoire-là, eh bien, nous sommes voués, frères et sœurs, à atteindre, ou du moins à viser le même but, à savoir celui que Jésus leur a enseigné, qui n'est autre que la perfection chrétienne. Et donc, nous avons vu que si nous sommes sur cette trajectoire, eh bien, nous allons nous trouver face à face avec des obstacles. Et ces obstacles sont notamment nos propres espérances, nos propres attentes, comme nous l'avons vu dans l'exemple de Pierre, qui s'attendait, comme les autres disciples d'ailleurs, à voir Jésus couronné dans sa vie, de son vivant et dans son pays en Israël. Et bien sûr, cette attente était vouée à être terriblement frustrée, comme nous le savons qu'elle l'a été, parce que Jésus se dirigeait vers la croix. Et donc Pierre avait besoin, comme les autres disciples, quoique eux n'aient pas exprimé aussi audacieusement ce qui était en eux, Pierre, comme eux, ils avaient besoin d'avoir une réalisation de la croix. Que la vie, en tant que serviteur du Seigneur Jésus, n'allait pas être toute rose, mais qu'ils allaient se retrouver face à des sérieuses difficultés qui mettraient terriblement à l'épreuve ce qu'ils étaient. Ce qui formait la trame de leur pensée quotidienne. Parce que lorsque vous avez une attente aussi grande que celle qu'ils avaient, à savoir de voir Jésus être couronné et de terrasser tout joug étranger, comme d'ailleurs c'était le cas parce que Rome avait le contrôle d'Israël, Israël n'était plus vraiment une nation souveraine, eh bien, d'avoir une telle espérance, cela influe le train quotidien de vos pensées, de vos schémas de pensée. Tout dirige vers cela, tout tend à cela à l'intérieur de votre esprit. D'où l'importance d'une réalisation de la croix pour opérer un changement radical de paradigme à l'intérieur du cœur. Parce que lorsque la Bible parle de cœur, nous savons qu'il s'agit bel et bien de la partie affectionnelle, de cette partie cognitive, intellectuelle du cerveau. Et donc, comme je le disais, plus nous déterminons aujourd'hui de marcher sur le sentier de la croix, de cette croix, de la croix que Jésus a appelé ses disciples à porter, si nous déterminons de marcher sur ce sentier, pas sur le sentier de notre propre volonté et de nos propres penchants, avec sous couvert d'un camouflage chrétien entre guillemets, si nous sommes déterminés comme cela à fouler le sentier consacré par Jésus lui-même, le sentier de la soumission et de l'obéissance. Eh bien, si nous sommes déterminés comme cela, plus nous faisons cette détermination, plus nous sommes ainsi déterminés, plus nous ferons l'objet des attaques et des tentations de l'ennemi. Et plus nous réaliserons et nous ressentirons notre besoin d'une foi vivante. Parce que plus vous êtes attaqué, plus vous êtes tenté, plus vous avez besoin de foi, plus vous avez besoin que votre foi vous lie à Dieu étroitement. Et nous réalisons cela lorsque nous sommes engagés sur ce chemin et que nous avons fait preuve d'une fervente et ferme détermination. En disant, Seigneur, je vais marcher sur ce sentier, aide-moi. Et bien, après cela, le diable va vous envoyer tout ce qu'il a. Parce qu'il voit que vous jouez pour être gagnant. Et il n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Il veut vous faire perdre et il utilisera toutes ses cartes. Et parmi ces cartes dont j'aimerais parler aujourd'hui, il existe une expérience dans la vie du chrétien, et tout particulièrement pour nous, frères et sœurs, en ces derniers jours où nous sommes confrontés à une expérience sans pareil qui nous attend dans le proche futur, celle du temps de détresse de Jacob. Il y a une expérience qui est celle, c'est une expérience d'obscurité. Une expérience d'obscurité dans la vie du chrétien, comme nous l'avions vu dans notre lecture biblique, nous y reviendrons plus tard. Et j'aimerais diriger notre attention vers un exemple dans la parole de Dieu d'une telle expérience, d'un tel ressenti d'obscurité spirituelle dans la vie d'une personne qui est indéniablement un croyant, un chrétien. Vous allez dans le livre de Job, au verset 7 à 11, nous discernons ici une expérience que fait Job dans son affliction. Il dit, verset 7, « Voici, je crie à la violence et on ne me répond pas. Je crie au secours et il n'y a point de justice. Il a fermé mon chemin et je ne puis passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a ôté la couronne de ma tête, il m'a détruit de tous côtés et je m'en vais. Il a arraché comme un arbre mon espérance. Il a allumé sa colère contre moi et il m'a tenu pour l'un de ses ennemis. » Chapitre 23, verset 3. On poursuit ces mêmes sentiments intérieurs. Chapitre 23, verset 3. « Oh, si je savais où le trouver, J'irai jusqu'à son trône, j'exposerai ma cause devant lui, et je remplirai ma bouche de preuves. Je saurai ce qu'il me répondrait, et je comprendrai ce qu'il me dirait. S'il savait où nous trouver. Mais il semble qu'il ne sait pas. Verset 8. Voici si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le découvre pas. Voilà l'expérience de quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais qui traverse une impasse d'obscurité. Notez bien mes paroles, frères et sœurs. C'est important que l'on puisse relever que c'est bel et bien l'expérience qui est ici décrite dans ses propres paroles. Je cite, il dit « Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il a allumé sa colère contre moi et il m'a tenu pour l'un de ses ennemis. » Donc Job avait ici l'impression que Dieu le considérait comme un ennemi, que Dieu était maintenant devenu son ennemi. Il avait ce sentiment. Notez bien le mot, ce sont des sentiments, des émotions. Il avait ce sentiment, cette impression qui le poussait à exclamer « Il a mis des ténèbres sur mes sentiers ». C'était le sentiment, l'impression, l'émotion intérieure, forte, qui le faisait déclarer cela. « Des ténèbres sur mes sentiers ». Job traversait une expérience d'obscurité. Mais ces impressions-là, ces impressions que nous sommes, auxquelles nous sommes nous-mêmes en proie, d'avoir cette impression d'être, que Dieu est devenu soudain notre ennemi, que Dieu a mis des ténèbres sur nos sentiers, comme il l'exprimait lui-même, comme Job l'exprimait lui-même, il a fait cela, il a allumé sa colère contre moi, il n'est plus content de moi. C'était en substance ce qu'il disait. Il ne prend plus plaisir à moi. C'était ce que Job ressentait. Mais il faisait du va-et-vient dans ses expressions. C'est ce que nous lisons sans cesse dans ses paroles, où d'un côté il dit, il exprime ce qu'il ressent, et d'un autre côté il dit que Dieu est juste. Dieu sait ce qu'il fait. Je sais que, comme je le lis au chapitre 23, au verset 9, il dit « Est-il occupé au nord? Je ne le vois pas. Se cache-t-il au midi? Je ne l'aperçois pas. » Comme il dit aussi au verset 3, « Si je savais où le trouver, j'irais jusqu'à son trône. » Et ensuite, au verset 10, il dit « Il sait la voie que j'ai suivie, qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. » Donc il dit, ses sentiments lui font dire quelque chose d'atroce, mais au fond il sait que Dieu sait, et qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il ne fait pas le mal. Et donc, ces impressions, comme nous les avons lues, sont-elles justifiées? Qui en est vraiment à l'origine? Qui est à l'origine de cette obscurité? Avez-vous fait l'expérience de vous retrouver soudainement dans une pénombre spirituelle que vous n'arrivez pas à expliquer, et vous seriez tenté de dire les mêmes genres de choses que Job a dites? J'aimerais qu'on puisse, pour clarifier cela, se tourner vers la citation du livre « La foi et les œuvres » à la page 36 et paragraphe 2. C'est la pagination qui se trouve dans le PDF de la version, la traduction indépendante française. Et ça se trouve dans l'original Faith and Works à la page 60 et au paragraphe 3. Je lis. Nous avons besoin de nous approcher toujours plus de Dieu. Pourquoi nos cœurs ont-ils été si insensibles à l'amour de Dieu? Pourquoi avons-nous prononcé des jugements si sévères contre notre Père céleste? D'après la lumière que le Seigneur m'a donnée, je sais que Satan a déformé notre Dieu de toutes les façons possibles. Hein? Revenons en avant, nous lisions, pourquoi avons-nous prononcé des jugements si sévères contre notre Père céleste? N'est-ce pas ce que Job faisait? N'est-ce pas ce qu'il déclarait? Ne prononçait-il pas des jugements sévères contre son Père, notre Père céleste, contre Dieu, en disant cela, que il était devenu comme un ennemi, qu'il avait allumé sa colère contre lui? Je relis, d'après la lumière que le Seigneur m'a donnée, dit la servante, la messagère du Seigneur, je sais que Satan a déformé notre Dieu de toutes les façons possibles. Ah! Il a jeté, qui, Satan, a jeté son ombre infernale en travers de notre chemin, pour que nous ne percevions pas notre Dieu comme un Dieu de miséricorde, de compassion et de vérité. C'est la raison pour laquelle la dureté s'est introduite dans nos âmes. En anglais, c'est la raison pour laquelle le fer s'est introduit dans nos âmes. Hein? Avons-nous du fer dans nos âmes, dans nos cœurs? Voilà la raison. Qu'est-ce que c'était? C'est le diable qui a déformé notre Dieu de toutes les façons possibles. Comment a-t-il fait cela? Comment fait-il cela dans nos expériences? Il a jeté son ombre infernale en travers de notre chemin pour que nous ne percevions pas quoi? Qu'a-t-il essayé d'empêcher? Il a jeté son ombre infernale en travers de notre chemin pour que nous ne percevions pas notre Dieu comme un Dieu de miséricorde, de compassion et de vérité. Hein? Donc, quelle est la raison principale que si nous sommes engagés sur ce sentier de la croix, de la soumission et de l'obéissance, quelle est la raison que nous faisons l'expérience de ces ténèbres? C'est le diable qui a jeté son ombre infernale en travers de notre chemin pour nous empêcher à tout prix de voir Dieu comme un Dieu de miséricorde, de compassion et de vérité. Et je poursuis dans le ministère évangélique à la page 395, paragraphe 5. Il y a cette petite phrase qui élargit en quoi consiste cette activité, avec quelle cadence, avec quelle persévérance cette activité se produit dans nos vies. Je lis, à chaque réunion, Satan sera là. Hein, elle parle à des personnes qui ont pour charge les activités évangéliques, les camp meetings. C'était à l'époque où cela a été écrit, dans la fin des années 1800. Et elle dit à ces personnes-là qui ont la charge de présenter la vérité aux personnes qui ne l'ont pas encore entendue, elle dit à chaque réunion, Satan sera là et il projettera son ombre infernale entre l'homme et Dieu afin d'intercepter chaque rayon de lumière qui pourrait illuminer les âmes. Donc là, cela complète, voilà, une information complémentaire sur cette activité de cette ombre qui est jetée, qui est projetée sur notre chemin. Pourquoi ? Afin d'intercepter chaque rayon de lumière que Dieu pourrait envoyer et que Dieu envoie pour illuminer nos âmes. Et donc, si nous avons été illuminés, que nous avons reçu une réalisation de la croix et que nous avons perçu l'amour de Dieu dans son amour et son égard pour les disciples en les avertissant, et que nous avons discerné ce Dieu de miséricorde et de compassion et de vérité, ces choses-là unies, si nous avons discerné ce Dieu au caractère équilibré, qui invite notre amour en retour, eh bien que fera le diable ? Il sera là à chaque réunion pour projeter son ombre infernale entre nous et Dieu afin d'intercepter chaque rayon de lumière qui pourrait illuminer les âmes, nos cœurs, notre esprit, notre conscience. Et donc si, à la suite d'une merveilleuse illumination de nos esprits, nous nous retrouvons de manière presque complètement inattendue, plongée dans une telle obscurité, eh bien, la faute, nous discernons ici que la faute n'est pas en Dieu, mais qu'elle est du côté du diable. Et donc, que Dieu ne nous a pas abandonnés. Que cette obscurité n'est pas une raison, n'est pas une preuve qu'il a, comme Job le disait, allumé sa colère contre moi. Ce n'est pas une preuve que lui, que Dieu a mis des ténèbres sur mes sentiers. Parce que nous venons de lire dans l'inspiration, qui a mis ces ténèbres-là ? C'est Satan qui projette son ombre infernale entre l'homme et Dieu. Mais que veut faire Dieu ? Dieu veut envoyer ces rayons de lumière pour illuminer nos âmes. Il se peut que ces rayons de lumière comprennent et consistent en des réprimandes, mais lorsque Dieu expose nos fautes, expose nos travers et nos péchés, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous restaurer. Donc, l'activité du diable, c'est de condamner et d'accabler, de déprimer. Mais Dieu veut illuminer pour guérir, restaurer et nous élever. Dieu veut nous élever, le diable veut nous rabaisser. Donc, maintenant nous commençons à discerner qu'il n'y a pas lieu à nourrir ces impressions que Job a exprimées. Et elles sont couchées sur le papier d'inspiration, ces paroles de Job, pour que nous recevions une aide lorsque nous sommes dans ces profonds sentiments de désespoir. Mais pas pour justifier ces impressions, mais pour diriger notre activité mentale par laquelle nous cherchons pas à pas à revenir à Dieu, à retrouver la lumière. Et ici, j'aimerais quand même, c'est important de bien préciser que nous n'ayons pas l'impression que toute la faute en revient à l'ennemi et que nous ne sommes en aucun cas fautifs dans ces expériences ténébreuses, comme on pourrait les appeler. Et pour cela, j'aimerais qu'on se tourne brièvement vers le passage de 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 6. Parce que cette expérience-là que nous découvrons, cette ombre infernale, eh bien cela peut tout à fait vous arriver, nous arriver, même si nous avons marché avec le Seigneur, même si nous sommes efforcés de suivre de très près la volonté du Seigneur, même dans ces circonstances-là, il nous arrivera de faire une expérience comme cela. Mais il y a d'autres moyens par lesquels l'ennemi projette cette ombre infernale et nous voulons brièvement les contempler pour bien aussi réaliser que des fois la faute est à nous. La faute est en nous. 1 Jean chapitre 1 verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Et pour compléter cela, on lit au chapitre 2, verset 4, celui qui dit « je l'ai connu » ou en d'autres termes, celui qui dit « je suis dans la lumière » et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Et je reviens, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. » Donc si nous ne marchons pas selon la vérité, si nous ne gardons pas ses commandements, si nous ne suivons pas de près sa volonté, si nous nous égarons, dans quelques détails que ce soit de sa sainte volonté, eh bien, nous attirerons sur nous les ténèbres. Et donc ces ténèbres-là, quoique nous ayons été tentés dans ces choses par l'ennemi, parce qu'il n'y a que lui qui tente, eh bien, nous y avons aussi participé. Nous y avons participé, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous y restions. Donc cela revient tout de même au même exercice que nous allons poursuivre vis-à-vis de ce que nous devons faire avec cette obscurité. Hein? Donc il se peut que nous ne soyons pas vraiment coupables, ou il se peut que nous l'ayons fait venir sur nous, nous ayons invité cette obscurité. Et le résultat, dans les deux cas, et le même, nous sommes dans l'obscurité. Pour le cas de Job, il ne sentait pas, lui, qu'il y ait une quelconque raison qui justifie qu'il fût plongé dans de telles ténèbres. Donc Job était véritablement, comme Dieu le dit, un homme juste, mais il avait aussi ses problèmes. Et donc, le fait que nous ayons fait le bien, pour ainsi dire, que nous ayons suivi de très près la volonté de Dieu, ne veut pas dire que cette expérience n'est pas orchestrée par Dieu pour nous pousser à sonder nos cœurs. Dans les deux cas, c'est le but de Dieu, il veut nous purifier. Parce qu'il y a encore des scories, s'il n'y avait pas de scories, si nous étions purs et parfaits, généralement, Dieu nous aurait amenés tranquillement à notre tombe. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien nous traverserons des épreuves que nous ayons l'impression de les avoir méritées ou pas. Et certaines fois, nous sommes conscients de les avoir pour ainsi dit méritées, d'avoir pour ainsi dit invité la tentation et les ténèbres. Et pour cela, nous voulons aussi explorer comment Dieu peut nous aider, comment nous pouvons sortir de cela, quand nous avons invité ces choses-là. Et un des autres éléments complémentaires qui nous permet de discerner quand est-ce que nous sommes plongés et pour quelles raisons il se peut que nous soyons plongés dans ces ténèbres, eh bien nous tournons vers, encore une fois, 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11, et nous lisons, très très important, frères et sœurs, là vous allez discerner pourquoi, à tant de reprises, nous avons fait l'expérience de ces ténèbres. Je lis ici. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore à présent dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne le fait broncher. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Là, vous avez vraiment des ténèbres profondes ou qui sont vraiment décourageantes. Mais ce découragement, vous verrez, est le résultat d'avoir haï notre frère. Comme je le lis ici, celui qui est son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont quoi ? Aveuglé ses yeux. Celui qui est son frère est encore à présent dans les ténèbres. Lorsque nous nourrissons des pensées hostile, amer envers le corps, envers les membres du corps de Jésus-Christ. Nous sommes dans les ténèbres et nous ne sommes pas dans la lumière et nous avons absolument profondément besoin d'être réintroduits dans la lumière, de percer ces ténèbres d'une manière pratique en renonçant à ces pensées mauvaises, ces pensées non charitables, ces pensées aigries, irritées, coléreuses. Celui qui pense comme cela, qui est son frère comme cela, H.A.I.T., est encore dans les ténèbres. Et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est à ce point grave, l'obscurité est à ce point épaisse lorsque nous avons ouvert nos cœurs à celui qui est à l'origine de cette haine. Et donc je poursuis maintenant parce que nous voulons absolument trouver un remède, savoir ce qui nous incombe de faire pour pouvoir sortir de cette obscurité. Et donc, que devrions-nous faire lorsque nous sommes accablés par cette obscurité soudaine et inexplicable et que nous sommes fortement tentés de douter que nos prières soient d'une quelconque utilité et de jeter l'éponge sur tous nos efforts précédents? Lorsque nous sommes accablés de doutes et tentés à faire le mal, à jeter l'éponge sur tous nos efforts précédents, que devrions-nous faire? Que sommes-nous appelés à faire? Et donc, nous sommes dirigés vers notre lecture biblique. Notre lecture biblique dans Ésaïe chapitre 50 et verset 10. Ésaïe chapitre 50 et verset 10. Qui d'entre vous craint l'Éternel? Qui écoute la voix de son serviteur? Que celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière se confie au nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire lorsque nous faisons l'expérience de ces ténèbres? Mais que nous sommes quelqu'un qui craint l'Éternel et qui écoute la voix de son serviteur, la voix de Jésus. Mais que nous marchons malgré tout dans les ténèbres et que nous n'avons point de lumière. Eh bien, en dépit de l'obscurité oppressante et déprimante qui semble s'emparer de chaque fibre de notre âme, nous devrions nous confier en Dieu et nous appuyer sur lui. Nous appuyer comment ? Nous appuyer par la foi. Nous confier en qui ? Au nom de l'Éternel. Quel est son nom ? Le nom auquel je pense, c'est celui de Jésus. Dieu sauve. Tu appelleras son nom Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. C'est son nom. Et sa naissance est aussi l'accomplissement des paroles. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, lorsque nous nous sentons abandonnés, lorsque nous sommes dans les ténèbres et que nous n'avons point de lumière, quand bien même nous faisons profession, nous croyons en ce Dieu, eh bien, il nous faut nous confier au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur, au nom de ce Dieu, et nous appuyer sur ce Dieu-là dont nous connaissons le nom. Je crois qu'il est Dieu avec moi. Qu'il n'est pas Dieu loin de moi. Ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous, à quel point ? À ce point-là. Parce que vous vous rappellerez Jésus sur la croix. Dans le psaume 22, il se sentait lui aussi séparé de Dieu, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs ce qui l'a fait s'exclamer, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sentait abandonné de Dieu. Et pourtant, nous lisons au psaume 69 et au psaume 40 qu'il a attendu, quoiqu'il se sentait abandonné de Dieu, comme nous nous sentirons aussi abandonnés de Dieu. Il a attendu. Il s'est attendu à son Dieu. Comme nous sommes appelés à le faire, que nous lisons que celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière, comme Jésus marchait dans les ténèbres, non pas parce qu'il ait fait le mal, parce qu'il n'a pas commis le péché, mais parce qu'il a reçu sur lui et en lui nos péchés. À cause de cela, il a ressenti cette profonde obscurité et cette séparation d'avec Dieu. Il n'avait point de lumière. Il s'est confié en Dieu. Donc, que celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière se confie au nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. C'est son Dieu qu'il s'appuie sur lui de tout son poids. C'est là que l'importance de la foi, d'une vraie foi, d'une foi vivante, entre pleinement en jeu. C'est là, c'est pour cela que je disais que si nous sommes sur ce sentier-là, nous ressentirons, nous réaliserons notre profond besoin d'une foi vivante. Parce que les épreuves croissantes et qui s'intensifient, nous ferons réaliser cela, que notre foi n'est pas à la hauteur des attentes, des événements et des attaques. Il me faut une foi plus grande. Et lorsqu'il me faut une foi plus grande, eh bien je réalise qu'il n'y a pas de plus grande foi que la foi de Jésus. Et donc là, au fur et à mesure que mon besoin s'intensifie et s'accroît, eh bien, je réalise que mon grand besoin, c'est celui de cette foi suprême. C'est la foi pour laquelle on atteint le plafond. C'est cette foi de ces gens-là, de ce peuple-là, qui garde les commandements de Dieu et qui garde la foi de Jésus, de ce peuple qui a le témoignage de Jésus-Christ, l'esprit de prophétie, ce peuple qui nous est décrit dans Apocalypse chapitre 14. Et donc, j'ai besoin de cette foi-là, je réalise mon besoin, et ma mémoire est orientée vers ce Jésus que j'ai mis de côté. Dans le psaume 22 au verset 2, nous lisons « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement ? Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point, et la nuit, et je n'ai point de repos. » Était-ce là une expérience d'obscurité, soudaine, inexplicable, inextricable, déprimante, angoissante, oppressante, opprimante? Et ensuite, dans le psaume 40, nous lisons, ou plutôt, le psaume 69 d'abord. Lorsqu'il faisait cette expérience, lorsque Jésus faisait cette expérience, il disait « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie. Je suis plongé dans un bourbier profond où je ne puis prendre pied, je suis entré dans l'abîme des eaux et les flots m'ont submergé. Je suis las de crier, ma gorge est desséchée, mes yeux se consument à attendre mon Dieu. » Et ensuite, nous lisons, verset 5, « Ceux qui me haïssent sans cause passent en nombre les cheveux de ma tête. Ceux qui m'attaquent et qui sont mes ennemis sans sujet se renforcent. Je dois alors rendre ce que je n'ai pas ravi. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui s'attendent à toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à mon sujet, ô Dieu d'Israël. » Vous voyez pour qui il faisait cela? Vous voyez pour qui il souffrait cela? Il pensait à vous et moi. Il disait, dans sa souffrance, dans son angoisse, dans son sentiment de séparation, il pensait à moi, à toi. Il disait que ceux qui s'attendent à toi, Seigneur, ne soient pas honteux à cause de moi. Que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à mon sujet. Et ensuite, nous lisons dans le psaume 40, au verset 2, Jésus disait, « J'ai patiemment attendu l'Éternel. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui s'adonnent au mensonge. » Donc lorsque nous le verrons, lorsque nous verrons Jésus, lorsque nous verrons cet exemple-là, nous aurons de la crainte, de l'amour pour Dieu, et nous nous confierons en l'Éternel. Comme lui-même s'est confié en l'Éternel, nous suivrons cet exemple touchant de Jésus qui nous a montré que lorsqu'il était dans les ténèbres, il a patiemment attendu l'Éternel et que l'Éternel s'est incliné vers lui et a entendu ses cris. Et en Jésus, le Père aussi entend notre cri. C'est notre espérance et c'est la promesse qui nous est délivrée dans sa parole. Puisse le Seigneur fortifier, nourrir cette conviction dans nos cœurs pour les événements qui suivent. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse et prospère notre relation avec lui dans la lumière et dans l'obscurité. Amen.